Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédons petits bourgeois de la bonne santé suffit.
Hey, tu cherches un...
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais qu'il y a les différences de galère?
Ça fait raison, mais hâtez-vous!
Il y avait des voix à l'autre promenade.
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de février de Scène de vie vide scène, l'émission qui prend son temps. Bonjour Nathalie, bonjour Cécile.
Bonjour JC,
bonjour JC.
Alors ce mois-ci, au mois de février, nous avons eu envie de vous parler d'humour et d'humour en temps de crise.
C'est ça, avec la thématique en fait pour commencer du festival Ciné-Scène qui a débuté fin janvier la semaine dernière donc, et qui se poursuit jusqu'à ce week-end, donc on en parlera un petit peu.
Et puis nous avons trois invités pour cette émission de février. Nous aurons François Morel par interview téléphonique en première partie. Et puis nous avons deux musiciens de l'ensemble La Tête Ailleurs qui donneront un concert au Cadran, à l'Auditorium du Cadran le 21 février avec La Tête Ailleurs. Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Vous pourrez bien entendu intervenir tout au long de l'émission à votre guise.
Et puis, l'agenda du mois de février, puisque l'actualité culturelle continue, ne cesse d'alimenter notre région. Et nous terminons toujours notre émission depuis cette saison par un extrait de film. Et là, nous vous emmènerons du côté de l'Amérique avec Will Ferrell.
Et tout de suite, notre première pause musicale, si je me...
Exactement,
trompe pas.
Avec un groupe extrait de la programmation...
Des Nuits de l'Alligator.
Des Nuits de l'Alligator, voilà. Excusez-moi, j'étais en train de chercher de quel animal il s'agissait.
L'Alligator, Black Rebel Motorcycle Club.
Gonna bury it all just to give it up.
Black Rebel Motorcycle Club, Hate the Taste. Les Black Rebel, donc les BRMC, dans le jargon des musiciens.
Je vois que tu es intime avec les BRMC.
Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, ils font partie de la sélection des artistes qui sont programmés dans le cadre des Nuits de l'Alligator. Alors, le principe des Nuits de l'Alligator, en fait, c'est qu'il y a une sélection d'artistes, plutôt rock, folk, blues, qui sont sélectionnés et qui se partagent, en fait, un peu toutes les villes de France. Donc, ça a lieu à Paris, bien sûr, mais aussi en région. Et là, pour le coup, ça va un peu partout, quoi. Nantes, Lyon, Reims, Nancy aussi, j'ai vu. Et c'est tout le long du mois de février.
Évreux et également Rouen.
Le 13. Exactement, ouais, Évreux le 13 à l'abordage. Voilà, donc vous pouvez aller fureter sur le site nuitdelalligator.com.
Et nous abordons le Ciné-Scène qui a débuté la semaine dernière, Cécile.
C'est ça, donc cette année, Ciné-Scène 2014, la thématique est comédie en temps de crise. Bah oui, voilà, dans un contexte en fait un petit peu morose. Si, il faut quand même le reconnaître, c'est pas très glorieux en ce moment. Donc Pierre Carniaux, le monsieur cinéma de la scène nationale, et Philippe de Reder, eux, ils avaient envie de rire, en fait, envie de faire rire le public et aussi de permettre à ceux qui ont envie de hurler de rire, de le faire, justement. Donc le Ciné-Scène, il a démarré le week-end dernier. Et puis, déjà depuis, il y en a eu un petit peu pour tous les goûts, sur les écrans et sur scène. Sur les écrans, en tout cas, les plus jeunes ont pu se régaler devant Les Temps Modernes de Chaplin, qu'on a pu découvrir ou redécouvrir sur grand écran.
Indémodable, d'ailleurs, et toujours d'actualité.
Je confirme, parce que j'ai pu être en salle et c'était assez formidable de revoir tout ça sur grand écran, et puis aussi pour tous les goûts, hein, puisqu'il y a eu une belle journée de cinéma Ernst Lubitsch, et puis on a également programmé La Grande Bouffe de Ferreri, entre autres, hein. Tout ça c'est à titre informatif, et puis ce week-end en fait on va terminer donc le Ciné-Scène en fanfare, c'est un peu le cas de le dire, ce soir, donc ça commence dès ce soir à Louviers, avec un spectacle du Poème Harmonique, La Mécanique de la Générale.
Oui, ce soir au Théâtre du Grand Forum à 20h30, Vincent Dumestre et ces musiciens du Poème Harmonique, eh bien vont se tourner en dérision. Mécanique de la Générale, c'est, je dirais que c'est comment un orchestre baroque peut un peu se remettre en question, se tester et à être amené à jouer du disco et du rock à la fin. Voilà. Donc on part pour un concert baroque, mais ça nous emmène bien plus loin. Alors l'humour, je rebondis sur le festival Ciné-Scène, du coup ça prend des formes différentes ce festival. On voit qu'on a à la fois, ça interroge les formes cinématographiques, mais également de plateaux, de spectacles vivants. Et l'humour, il est au niveau de la musique, il est au niveau du théâtre. C'est vraiment une programmation qui vise à interroger cette thématique, mais sous divers angles du spectacle vivant et du cinéma. Je trouve ça intéressant, de trouver l'humour en musique. On pourra interroger nos deux invités, d'ailleurs, sur cette thématique. En tout cas, avec le Poème Harmonique ce soir, je pense que c'est un petit peu prendre le spectateur peut-être à contre-pied en l'emmenant ailleurs que là où il pense peut-être aller ou assister.
Ce qui peut être intéressant de ne pas connaître le point d'arrivée. En tant que spectateur, j'aime beaucoup ne pas connaître le point d'arrivée.
Oui, donc là, ça peut être un point d'arrivée surprenant. À voir, donc dès ce soir, 20h30, au Théâtre du Grand Forum.
Demain, Cécile, on se prépare au jour le plus con.
Oui, c'est ça, exactement. Je crois qu'il n'y avait rien de mieux pour clore donc un festival sur l'humour en temps de crise qu'une thématique du jour le plus con. Et pour le coup, c'est vraiment ça, puisqu'on a donc une programmation cinématographique au Cinéma Pathé à Évreux, avec en tout début d'après-midi un film qui promet d'être assez assez drôle, assez con pour le coup, New Kids Turbo. Alors j'ai perdu mes petites notes, je crois que ça commence à 14h.
C'est 14h, ouais, au Ciné Pathé à Évreux.
Voilà, et puis après on enchaîne avec un duo de films qui rendent hommage à un grand acteur, enfin un fameux acteur américain qui s'appelle Will Ferrell, qui est plutôt très drôle, avec deux films, le premier Frangin malgré eux, et puis Very Bad Cops. Je sais pas, on peut d'abord revenir peut-être sur New Kids,
oui,
un petit peu.
Oui.
C'est, je crois, l'affaire. Enfin, c'est une histoire complètement délirante. C'est un groupe de jeunes, donc ça se passe aux Pays-Bas, qu'on pas un rond. Hein, voilà, c'est la crise. Ils arrivent plus. Enfin, voilà, c'est difficile de boucler les fins de mois. Donc, ils décident que, bah, de toute façon, pourquoi ils continueraient à payer, puisque de toute façon, ils ont plus d'argent. Donc, ils vont aller se servir dans les magasins, et tant pis, s'ils peuvent pas payer, ils se servent. C'est comme ça, ils ont décidé, ils font leur propre loi.
Ça, ça donne des idées.
C'est l'anarchie.
C'est exactement ça, ça donne des idées. Et finalement, eux-mêmes se font dépasser, puisque ils pensaient pas, mais ils engendrent en fait tout un mouvement. Et finalement, toute la ville va suivre ce mouvement-là en disant, mais ils ont complètement raison. On décide de nous non plus, de plus rien payer. Et ils rencontrent un vrai succès. Au point donc de quand même déclencher une guerre civile. Donc c'est complètement farfelu. C'est comment on dit. Enfin oui.
C'est con.
C'est con. Voilà. Bah, pour résumer, c'est con. Voilà. New Kids Turbo demain 14h.
Oui, une précision, c'est quand même un inédit en France puisque ce film est donné en anglais, surtitrage en français, mais il n'existe aucune version française de cette copie de ce film puisque aucun distributeur français n'a voulu le diffuser. Voilà, sur le territoire. Donc voilà, on a joué d'astuces et de contre-astuces pour pouvoir vous le présenter demain à 14h, en cinéma.
Eh ben, c'est une très bonne nouvelle.
Voilà, puis Will Ferrell, comme, moi j'ai une petite précision, journée la plus con, on accompagne de pop-corn qui vous seront offerts si vous décidez d'assister à la journée. Hein, parce que là, pour une fois, à la scène nationale, au ciné-scène, vous pourrez manger des pop-corns et faire du bruit en salle.
Voilà. Ça, c'est cool. Ouais.
Donc voilà, une belle clôture, je pense, pour ce festival ciné-scène 2014, placé sous le signe de l'humour.
Bon, nous, voilà, c'est ce qu'on avait à dire sur le ciné-scène. On vous attend. On vous attend ce soir. Je voulais préciser aussi, c'est vrai que... Dans une période de festival, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Ce soir, donc, le spectacle La mécanique de la générale à Louviers. Mais il y a aussi un superbe film à 20h au Ciné-Pâté, Workers, film mexicain, primé. Et là, on vous amène dans une ambiance de domestique, on va dire, de personnes ouvrières, on va dire le peuple qui se confronte à la bourgeoisie. Voilà.
Eh bien, nous repartons en musique. Et justement, il y a un lien. Vous parliez tout à l'heure de la mécanique de la générale, avec un départ baroque et une arrivée on ne sait où. Voilà. Moi, je vous propose une pause musicale avec les Violons Barbares, un trio quasi improbable sur une musique difficilement définissable. On s'écoute tout de suite les Violons Barbares. Thank you. Makedonsko des violons barbares.
Merci JC, on reste dans notre thématique donc de l'humour. Et puis on va juste opérer un petit retour en arrière puisque nous accueillons aujourd'hui François Morel. François Morel, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes comédien, humoriste, metteur en scène, chroniqueur, auteur. Vous faites l'actualité Haute-Normande ce week-end. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et donc de pouvoir discuter avec vous de notre thématique du jour qui est l'humour en temps de crise. Mais nous allons d'abord revenir sur Instant Critique que le public normand a pu découvrir ce week-end. Donc dans ce spectacle, vous rendez hommage à deux critiques de cinéma qui sont Jean-Louis Bory et Georges Charansol. Et alors, émission radiophonique Le Masque et la Plume sur France Inter. Vous les faites interpréter par deux comédiens proches de vous, qui sont Olivier Broche et Olivier Saladin. C'est pour eux que vous avez eu envie d'écrire ce spectacle ?
Oui, initialement, c'est vraiment pour Olivier Broche. C'est-à-dire que c'est un fou de cinéma, c'est un cinéphile vraiment passionné. Et quand je l'entends, quand j'entends sa mauvaise foi, parfois, quand il casse des films ou quand il s'enthousiasme pour d'autres, je me suis dit que ça pouvait ressembler à la passion qui animait Jean-Louis Bory. Et donc c'était l'idée de faire un spectacle sur le cinéma, sur les films, et aussi sur la discussion, le plaisir de s'engueuler, le plaisir de ne pas être d'accord, et comment les discussions pouvaient rendre fructueuses des amitiés. Et finalement, c'est aussi un spectacle sur l'amitié, celle que j'ai pour Broche et Saladin, et puis celle qu'on peut imaginer entre Bory et Charansol.
Oui, pour avoir vu le spectacle au Cadran à Évreuse, de belles performances de ces deux comédiens qui sont, j'irais trois, qui sont accompagnés par une magnifique chanteuse et pianiste qui, telle une petite bulle de cristal, intervient dans les respirations, mais aussi à travers les musiques de films où elle donne cette tonalité sonore. Alors, moi j'avais une question, c'est sur le choix des textes et des films, puisque quand même la carrière de Charansol et Bory, ça a été plus de, je crois, plus de 20 ans, et avec de nombreux films. Alors comment s'est opéré votre choix, votre sélection de films ?
On l'a vraiment fait avec Olivier Broche. D'abord, on a écouté énormément de choses à l'INA, on a écouté la plupart des émissions, et après, on s'est dit qu'il fallait que ce soit des films qui puissent être emblématiques. Il fallait aussi qu'il y ait des débats entre les deux. C'est-à-dire que de temps en temps, ils étaient quand même d'accord sur certains films. Donc ces débats-là étaient un peu moins intéressants. Et puis, il fallait qu'il y ait qu'on puisse poser deux personnages avec vraiment leurs différences. Il y en a un qui représente plutôt le cinéma patrimonial, classique, voire familial, et l'autre qui est plus intéressé par le cinéma qui épouse aussi les combats sociologiques de cette époque-là. Donc forcément, qui avait du Jean-Luc Godard. Et curieusement, il n'y a pas beaucoup de François Truffaut. Ils sont juste, à un moment donné, presque d'accord sur Une belle fille comme moi, qui est un film que Jean-Louis Bory n'aime pas beaucoup. On a été un peu à vue aussi, c'est ce qui nous a amusé. De temps en temps, Bory est d'une telle violence sur les films de Gérard Houry, pour lesquels personnellement j'ai eu une tendresse. C'était aussi l'expression de leur mauvaise foi. Il fallait que ce soit intéressant théâtralement.
Oui, je trouvais intéressant dans ce rapport, dans cette relation entre ces deux hommes, c'est vraiment cette relation d'amitié. Ok, ils ne sont pas du tout d'accord, ils n'ont pas du tout le même point de vue sur les films, mais on sent pour autant pas de jugement, pas de grande compétition, mais finalement un grand respect et un amour l'un de l'autre. Enfin voilà, c'est ce qui se dégage du coup, cette interprétation.
Il y a un vrai respect l'un de l'autre, puis on a fait du théâtre avec ces dialogues-là, parce qu'eux-mêmes avaient commencé, c'est-à-dire que Charansol était dans l'émission avant Bory, et il commençait à trouver que l'émission ronronnait un peu, il s'y ennuyait ferme, et quand Bory est arrivé, il s'est dit « Oh ben, je suis pas d'accord avec lui sur la plupart des films, on n'a pas les mêmes goûts, et donc on va un petit peu augmenter parfois le curseur de notre agressivité, donc ce qui fait que de temps en temps, il s'amusait aussi un petit peu à se mettre en colère, ce qui fait aussi qu'on n'est jamais gêné quand on les écoute, quoi. »
Oui. Ce qui était intéressant aussi dans le spectacle, c'est quand un auditeur ou une auditrice intervient et que pour le coup, ils se font tout petits. C'est comme si ils redevenaient des enfants et du coup, la variable extérieure était quand même très influençable pour eux. Ouais. C'est drôle, ça.
Mais il y a plein de choses, justement, comme ça, très humaines, qui font que le spectacle peut aussi intéresser, enfin, on l'a constaté, des gens qui n'ont pas vu les films dont ils parlent et qui n'ont pas forcément toutes les références qui sont dans ce spectacle-là, parce qu'il y a beaucoup de références. Au début, je ne vous cache pas que je me disais, c'est un spectacle un petit peu casse-gueule, parce que la plupart des gens ne connaissent pas Boris Ransol, et puis le public d'aujourd'hui a oublié, ou a peut-être vu certains de ses films, mais on a oublié certains.
Oui.
Donc finalement, mais le premier soir où on a joué, on était devant des lycéens, et les lycéens nous ont dit, c'est bien parce que ça nous donne envie d'aller au cinéma. Alors si ça sert à ça, c'est pas mal.
Ah bah c'est parfait. C'est aussi, pour vous, je pense, aussi le but recherché à travers cette création de spectacle. Et puis, alors, autre spectacle en ce moment, là, vous étiez sur Le Havre, et vous êtes ce soir à Pont-Audemer à l'Éclat avec La fin du monde est pour dimanche, c'est cela ?
Oui, c'est vrai.
C'est une tournée Haute-Normande et dans l'Ouest, là, vous enchaînez les dates, vous serez à Grand-Quevilly, puis à Val-de-Reuil, au Théâtre des Chalands. Et là, vous mettez en scène.
C'est pas moi qui me mets en scène. Voilà, je me suis laissé mettre en scène par Benjamin Guillard.
Voilà.
J'ai utilisé des textes qui étaient dans mon ordinateur, perdus, esselés, et que j'ai réunis pour faire un spectacle. C'était aussi certains textes qui avaient été faits pour la radio. Et puis on a essayé de trouver des textes qui étaient justement pas sur la politique, pas sur l'actualité directe, mais comme j'avais envie de, comme je suis un peu paresseux, ça me permet de le jouer assez longtemps. Et comme les thèmes sont le bonheur, le temps qui passe, le vieillissement, etc., ça sera forcément d'actualité encore dans un an ou deux.
Vous faites aussi des hommages à d'autres humoristes. Je crois qu'il y a du Desproges également dans dans ce spectacle.
C'est involontaire, qu'il y a du Desproges.
Oui.
Je l'ai écouté beaucoup. Alors, on me parle plutôt de De Vos en général. On me dit il y a du De Vos. Et même là, récemment, on m'a dit il y a du Tati. Il se trouve qu'à un moment donné, je mets un imperméable. Alors on doit trouver que j'ai un petit côté Monsieur Hulot quand je me sens imperméable. Mais Desproges, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas vraiment de référence à lui, même si j'aime beaucoup, évidemment.
Alors, humour en temps de crise, puisque là, nous sommes aussi dans la thématique de notre émission, qui est en lien avec le ciné-scène, qui est actuellement sur Évreux. C'est dans ce cadre-là que votre spectacle Instant Critique a été programmé. Voilà, on avait envie de poser quelques questions sur l'humour en temps de crise en général, et votre point de vue.
Alors, tu vas essayer d'y répondre.
Alors, moi, il y a une première question qui me venait, c'est l'humour ne serait pas finalement un meilleur vecteur d'idées que la politique politicienne, car plus facile d'accès et extrait des jeux partisans. Du coup, il y a une responsabilité de l'humoriste. Quelle est un petit peu votre vue par rapport à ça ? Est-ce que l'humoriste a une responsabilité d'idées ?
Moi, j'essaie d'être d'accord avec ce que j'écris, avec ce qui me fait rire. Et pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand je ris, j'ai plutôt envie de ne pas avoir honte de la façon dont je fais rire. Et j'ai aussi envie que les gens sortent du spectacle en étant peut-être plus confiant dans l'avenir. Moi, je suis pas. Il y a des spectacles où on rit beaucoup et puis après, on peut se sentir un peu sali par ce qui nous a fait rire. J'ai envie que les gens sortent un peu plus légers de mon spectacle que alourdi par l'actualité qui est quand même pas toujours très drôle. Donc, je trouve qu'il faut essayer d'aborder même les sujets qui fâchent, même ce qui nous angoisse, même ce qui nous fait peur, et puis de prendre ça à bras-le-corps avec un peu d'humour, peut-être même de poésie si on peut, et puis essayer de s'alléger un peu avec tout ça. Je trouve qu'on est, on va dans une salle de théâtre pour se réconforter aussi, pour se consoler, pour se dire qu'on a tous des difficultés, et puis on est quand même un peu ensemble, et on va essayer de dépasser ces difficultés.
Mais ça peut, les salles de théâtre sont, et historiquement et actuellement aussi, des lieux de, d'idées quand même, d'échanges d'idées, presque d'échanges d'informations quasiment.
Oui. Ou aussi un lieu de réflexion, oui, bien sûr. Mais je ne trouve pas que... Oui, bien sûr, l'humour n'est pas du tout le contraire de la réflexion, ou le rire n'est pas du tout le contraire de la réflexion, au contraire. C'est aussi une façon de prendre un peu de distance par rapport aux choses et de les regarder un peu différemment.
C'est aussi, de mon point de vue, ce serait une espèce de contre-pouvoir non reconnu par définition,
ah ouais,
vu que il n'est pas reconnu comme un contre-pouvoir,
oui,
mais un contre-pouvoir non reconnu.
Pas tellement.
Qui du coup pourrait être...
C'est plus utile que les politiciens et tout ça, ou que la politique politicienne. Mais c'est pas du tout la fonction, c'est pas le but. C'est autre chose, quoi. C'est aussi dans une salle de théâtre, normalement, moi j'aime bien qu'il y ait des gens divers et pouvoir parler à des gens qui n'ont pas les mêmes âges, pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes votes et qui peuvent quand même se réunir à un moment donné pour essayer d'être à un moment donné un peu ensemble et plutôt dans un truc qui est assez intelligent dans le fond. Voilà, en tout cas moi c'est ce que je cherche. Je n'aurais pas envie de parler seulement à un parti politique ou à un syndicat ou à... Voilà, j'ai envie de parler à tout le monde et que tout le monde en même temps puisse peut-être avancer vers l'autre.
Ce serait peut-être plus l'humour et plus largement l'humoriste qui traiterait de la société en général hors de ce qu'on pourrait appeler l'actualité brûlante de l'instant, qui serait plus dans le recul et qui aurait plutôt une vision de société plus que politique ou d'événements brûlants, non ?
Oui, moi j'ai presque deux métiers, c'est-à-dire que pour moi les chroniques du matin sur France Inter par exemple, là j'ai l'impression que je suis plus branché sur l'actualité, même sur la politique politicienne, où je peux citer des noms de personnalités publiques actuelles, ce que j'évite de faire en spectacle, j'évite parce que je crois que je m'ennuierais. Chaque semaine je lis les journaux, j'écoute la radio, je regarde la télévision et j'essaie de voir ce que ça fait en moi et ce que ça suscite comme chronique. Mais quand je suis sur une scène de théâtre, j'ai des grands souvenirs de spectacles où on parlait pas des hommes politiques. Et pour moi, j'ai pas un humour très chansonnier quand je suis sur scène. Je pense à De Vos, à Bernard Allaire, au spectacle de Jérôme Deschamps, à Zouk, à tous ceux qui m'ont fait rire avec, en gros, la vie, la mort.
Aujourd'hui, plus largement, vos sources d'inspiration, je dirais générales en tant qu'homme, elles viennent d'où ?
Du goût pour écrire et de l'observation, sans doute, l'envie de raconter un peu le monde à ma façon. Et l'inspiration, elle vient de tout et elle vient parfois difficilement. Tout peut être source d'inspiration et en même temps, l'inspiration, quand elle ne vient pas, c'est compliqué d'écrire.
Nous avons une tradition dans notre émission. Nous demandons à nos invités de choisir la pause musicale qui va succéder à notre échange. Nous n'avons pas dérogé à la règle avec vous. Nous avions soumis, nous avons proposé de choisir. Vous avez choisi. Alors nous avons retenu. Je vais y arriver. Hein. Vous nous aviez proposé plusieurs choses.
Ouais.
Et nous avons retenu Juliette dans vos propositions. Le titre choisi. Alors on aurait pu choisir un morceau dans lequel vous étiez en duo avec elle, car vous avez fait des duos avec Juliette. Nous avons fait le choix de choisir un morceau de Juliette toute seule. Et le titre choisi, c'est « Les garçons de mon quartier ». Quelques mots sur votre choix que nous avons interprété.
Oh, mais j'adore cette artiste. Je trouve que c'est une femme musicienne formidable. Elle écrit des chansons là à la perfection, et puis c'est une bonne copine avec ce qui c'est agréable de travailler, même parfois de ne rien faire. C'est elle qui a mis en scène mon spectacle Le Soir des Lions, Et c'est quelqu'un avec qui c'est un vrai plaisir de travailler parce qu'il n'y a jamais de gêne. C'est-à-dire, on essaie toutes les idées. Quand elles marchent, on les garde. Quand elles ne marchent pas, on en cherche d'autres. Et elle est tellement la tête pleine d'idées, de trouvailles, que c'est un bonheur de travailler avec elle. Donc, c'est vraiment une artiste amie.
Très bien. Eh bien, merci à vous, François Morel, d'avoir échangé avec nous. Et nous allons écouter.
C'était un plaisir.
et nous allons donc écouter maintenant Juliette, les garçons de mon quartier. Merci encore à vous.
Merci à vous.
Ils ont le regard dur dans de grands yeux de fang, une arme à la ceinture et des gestes d'enfant. De leur joueur préféré et tatoué sur la peau un Christ ensanglanté. Nuit et jour en maraude, ils vivent de fumée et de diverses fraudes, les garçons de mon quartier. Et moi je vais prier, l'homme a dans nos yeux fermés, impassible sous les fleurs et sous son voile de douleur. Ô Sainte Vierge des tueurs, j'aime à croire que tes pleurs sont pour tes fils abandonnés, les garçons de mon quartier. Ils portent le prénom d'acteurs américains. S'il suffisait d'un nom pour changer de destin, mais Nelson ou Brian prendront à la sauvette, ivre de Marie-Jeanne, une balle dans la tête. S'ils disent que demain est un mot inventé, c'est qu'ils n'espèrent rien, les garçons de mon quartier. Et moi je vais prier, la main dans nos yeux fermés, impassible sous les fleurs et sous son voile de douleur. Vierge des tueurs, j'aime à croire que tes pleurs sont pour tes fils abandonnés, les garçons de mon quartier. Parmi eux j'en aime un ange de beauté, on dirait un gamin s'il n'était dévoyé. Et parfois prostitué, je ne donne pas cher de sa peau adorée. Alors je serai veuve avant d'être mariée. C'est là la triste épreuve des filles de mon quartier. À quoi bon te prier, belle madame au cœur fermé, impassible sous les fleurs et sous ton voile de douleur. Ô Sainte Vierge des tueurs, combien faut-il qu'il en meure pour que tu daignes regarder les garçons de mon quartier? Ô Sainte Vierge des tueurs, verse un peu de douceur sur les cadavres jeunes et beaux de l'antico de mi barrio.
Les garçons de mon Cartier. C'était un choix de François Morel.
Oui, et nous continuons avec nos deux invités. Bonjour à Mathieu Tessonnière et à Nicolas Krabanjevic. Je ne voudrais pas écorcher votre nom, mais...
C'était magnifique.
C'était magnifique. Bonjour, donc vous êtes deux musiciens, on va dire percussionnistes, du concert qui sera proposé le 21 février, La Tête Ailleurs. Alors,
Là, il y a un percussionniste et puis le bassiste.
Et le bassiste. Voilà, on est dans la rythmique.
Ah oui, complètement.
Voilà, on est quand même dans la rythmique de l'ensemble.
On est dans deep,
là. Donc, composé de quatre musiciens, vous êtes tous enseignants au conservatoire à rayonnement départemental d'Évreux, et avec des univers complètement différents, entre le jazz, l'accordéon, la musique actuelle ou improvisée. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous réunir, de partager une musique? Quelle musique? Voilà, en gros, c'est assez récent aussi, je pense, cette formation.
Je veux bien répondre, Nicolas, parce que moi, j'ai cherché ce matin et je n'ai pas trouvé comment ça s'est fait, en fait.
Je
crois qu'on s'est croisés et puis on s'appréciait bien et du coup on s'est dit
trois quatre
on y va,
merci.
Voilà. Non, mais c'était surtout en faisant les projets au conservatoire avec nos élèves respectifs,
voilà, c'est ça,
et les classes. Donc voilà, le courant est passé.
Je crois que c'est d'abord une histoire de rencontre. Mais pédagogiquement, on s'entendait bien et du coup, ça donne souvent envie d'aller plus loin. Ouais.
Du coup, quand on se rappelle pas forcément de comment ça a démarré ou comment ça s'est fait, c'est que c'est quasi naturel. C'est qu'il y a un truc qui s'est fait sans qu'il y ait une conscience de le faire.
C'est quasiment l'ambiance qu'on a toujours aux répétitions. C'est comme si on se connaissait depuis 20 ans. Ça part en live très vite.
Oui, c'est assez curieux. Il y a un truc où ça a un peu toujours existé, mais on le savait pas. C'est assez surprenant, ouais.
Mais alors, du coup, qu'est-ce qui vous décide finalement à passer le cap et j'ai envie de dire de sortir de la salle de répète et de dire allez, bah maintenant la formation, on la crée et on monte sur scène et on y va et on se montre au public.
En fait, je crois que dès le début, on s'est vu, on s'est dit ce serait assez rigolo de faire quelque chose ensemble vu qu'on n'a rien en commun. Parce que bon, Nicolas est vraiment dans le monde de l'accordéon, piazzola, enfin voilà. Sylvain est saxophone alto du Quatuor Habanera, qui est donc vraiment spécialisé sur la musique contemporaine, et puis qui font aussi beaucoup de musique classique. Nicolas, lui, qui est percussionniste et qui a une tradition plus de la musique des Balkans et toutes ces choses-là, et puis moi qui suis beaucoup plus dans le bruit.
Très bonne définition.
Enfin, disons, je fais le reste, quoi. Et donc, du coup, on s'est dit, ce serait quand même assez rigolo de voir ce que ça pourrait faire mélanger. Parce que, mais après, on le sait, hein, les mélanges, c'est des fois, ça marche aussi.
Ou pas.
Voilà. Donc, du coup, on a dit, on essaye. Et puis, en fait, très rapidement, on a vraiment bien ri, on a pris pas mal de plaisir. Et en fait, on a trouvé une date. Finalement, on a déjà joué une fois sur scène ensemble. C'était il y a un an et demi, deux ans, presque, je crois.
C'est un rythme effréné de concert, finalement.
Ah non, mais là,
du délire.
Du délire.
Du délire. Gala, 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 comme disait François Morel.
Mathieu, vous disiez tout à l'heure, voilà, pédagogiquement, on s'entendait bien. Vous étiez pédagogiquement compatible, c'est ça, si j'ai bien saisi. Il y a cette notion, de professeur de musique, quand même. Vous êtes tous les quatre professeurs de musique. Est-ce que finalement, jouer entre professeurs, c'est une approche différente? J'imagine que vous avez joué avec d'autres gens qui n'enseignaient pas la musique dans votre carrière. Est-ce que le fait de se retrouver entre professeurs de musique, il y a une façon différente d'aborder le collectif, le groupe, la façon de jouer?
Moi, je n'ai pas trouvé. Mais je vais laisser Nicolas donner son avis.
Non, en me disant qu'on a peut-être besoin de moins de répétitions. Ça, c'est vrai, ça.
Oui.
Ouais. Du coup, ça va un peu plus vite.
Ça,
non,
c'est
mais c'est non. Non, c'est vrai que... Après, c'est juste une question de feeling entre les musiciens. Puisque,
donc,
c'est vrai qu'on est enseignant, mais il ne faut pas oublier qu'on est surtout musicien. Hein, donc
oui, mais je dirais que ça vient compléter. Enfin, il y a le musicien qui est de scène, celui qui joue. Et puis, il y a l'enseignant qui a une autre approche quand même, j'imagine. Ne serait-ce que l'approche de transmettre et une passion et une technique et sûrement plus de choses d'ailleurs. Mais il y a quand même une autre façon d'aborder, ne serait-ce que sur la transmission, non, quand on est enseignant
Je sais pas trop, moi j'ai l'impression d'être toujours un seul à l'intérieur, donc du coup j'ai l'impression quoi que je fasse, de toute manière, c'est toujours un petit peu, ça passe un peu par le même filtre. Même si, évidemment, je vais pas forcément apprendre à mes élèves directement à brancher leur guitare à l'envers et puis à faire de la scène électronique sur une table de mixage, même si je peux le faire. Je peux leur proposer des choses un peu plus conventionnelles, mais globalement, c'est quand même quelque chose qui vient de moi. C'est ma manière d'enseigner qui reflète aussi ma manière d'être sur scène.
Je crois qu'on est tous les quatre, hein, c'est pour ça que ça, du coup, ça a marché. Il y a eu cette sauce qui a pris, voilà. C'est vrai qu'on ne rentre pas dans dans le cliché du prof. Voilà, on essaie un peu d'être le plus naturel possible.
Oui, au final, mais c'est vrai que du coup, ta réflexion me fait penser qu'en effet, ouais, on ressemble vraiment peut-être moins à des profs que d'autres groupes de profs.
Voilà, c'est ça.
C'est vrai. C'est exactement finalement, ça. En fait, c'est intéressant. Et je ne comprenais pas trop ta question, ça y est, je viens de comprendre. Venez tous le 21 février, vous verrez que, ouais, surtout vu l'entrée de scène qu'on a prévue, on va pas ressembler exactement à des profs.
Moi, j'ai l'image d'une prof de piano que j'ai eue réellement, petit chignon, lunettes sur le bout du nez, et qui répétait sans cesse souple sur les phalanges.
Par exemple,
c'est un souvenir traumatisant.
Non.
Il a un chignon et des lunettes.
Non,
il a pas de chignon.
Ouais, c'est ça.
Pardon, excusez-moi.
C'est pas ça.
Non, mais on a tous le souvenir. Enfin, ouais. Toi, je sais pas trop, mais on n'a jamais parlé. Mais on a tous le souvenir, d'histoires qu'on nous a racontées comme ça, soit nous-mêmes d'expériences, pédagogiques, pas forcément super épanouissantes. Et du coup, c'est vrai que on s'est beaucoup construit comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de forcément reproduire ce genre de modèle.
Et du coup, j'imagine que vos élèves vont venir vous voir.
En concert. Le concert est complet. De toute manière, ils n'ont pas le choix s'ils vont avoir de bonnes notes.
Du coup, vous allez voir s'ils ont un autre regard sur vous après ce concert, de vous voir ensemble. Je pense que ça peut.
Ouais, mais ils nous ont déjà vus.
Ouais,
dans...
je crois qu'ils savent à peu près
à quoi ça
tourne. Ouais, malheureusement, je crois qu'ils ont bien, ils nous ont
ils
un
ont
peu percé
compris.
À jour.
Ouais.
Oui, je crois qu'on s'est fait griller.
C'est important, c'est un sens particulier de jouer devant ses élèves.
À fond. Ah ouais, pour moi, c'est essentiel. Surtout sur des disciplines comme les nôtres, les percussions et les musiques actuelles. Ils sont amenés beaucoup plus tôt à jouer en ensemble et à jouer même dans des formations en dehors du conservatoire. Du coup, voir que ça a une existence aussi dans la vie de leurs enseignants et que ça veut dire quelque chose et que ça existe, c'est du concret, c'est du palpable, je pense que ça les aide après à se définir soit en opposition, soit en filiation par rapport à ce qu'ils peuvent voir de ce que leur enseignant fait. Mais au moins, on est dans le dur, quoi. On est dans le concret et il se passe quelque chose, quoi.
Et donc on revient à l'idée que même en étant enseignant, il faut quand même avoir un contact avec la scène, parce que j'imagine que ce contact-là avec la scène, il nourrit aussi votre travail de transmission et d'enseignant.
Pendant super longtemps, moi, j'ai tenu vraiment ce discours-là et de manière assez chevronnée, et puis j'ai rencontré des gens qui jouaient plus, et qui étaient des pédagogues incroyables, des gens t'avais envie de laisser un micro, une caméra, et puis de prendre des notes toutes les deux secondes, parce que tout était super bien vu. Et c'est des gens qui font plus de scène, mais qui ont eu cette expérience de la scène. Donc je pense qu'il y a un âge ou un moment de la vie où t'es plus forcément obligé, où tu te sens plus obligé de le faire, mais où de toute manière, t'es complètement imbibé de cette expérience scénique. Et du coup, dans tout ce que tu transmets aux élèves, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, à un moment donné, c'est là que ça va se passer. Et c'est aussi pour ça qu'on se prépare.
Dans ce que vous venez de dire, il y a un truc, moi, qui m'interpelle. Vous dites, au bout d'un moment, on se sent plus obligé de jouer, obligé de jouer en public. C'est la première fois que j'entends ça, d'ailleurs, obligé de jouer, comme si, au bout d'un moment, ça ne pouvait pas être que plaisir.
C'est comme ça que je l'interprète. Je sais pas. Tu t'en connais, toi aussi, des gens comme ça qui, à un moment donné, ont arrêté. Et je passe mon temps à me demander pourquoi. Et finalement, je comprends pas. Du coup, je me dis qu'ils devaient se sentir obligés. Je sais pas. Parce que j'ai pas d'idée de ce que ça peut être.
Bon, c'est vrai que je ne connais pas trop, mais...
C'est étrange, c'est le truc où... Non, mais ça y est, maintenant, j'arrête.
Ouais, c'est vrai.
Mais pourquoi? Tu t'es cassé un bras? Non. Mais voilà, j'arrête. Et ça arrive.
Non mais arrêtez pour aller faire complètement autre chose en se disant voilà c'est quelque chose qui ne m'amuse plus, j'entends, mais rester dans l'univers de la musique, continuer à l'enseigner et se dire non je veux, pour moi il y a une espèce de contresens presque, mais alors c'est que moi et je suis pas musicien donc moi j'ai renoncé il y a longtemps à monter sur scène
Ils ont peut-être un sentiment de
d'avoir le mec derrière le micro à la radio quoi. Attends, t'es sur scène tout le temps. C'est comment le nom de votre émission déjà?
Musique, scène de vie, scène.
Ça, voilà, il me semblait bien.
Non mais
non, j'allais. Cécile, moi, j'allais dire, en tout cas, pour voir si ça fonctionne ou pas. On a rendez-vous le 21 février, finalement.
Alors ça va être un peu dur pour les auditeurs puisque le concert est complet. Oui. Voilà, on vient de l'apprendre hier.
Et donc, comme on joue tous les deux ans et demi,
c'est ça.
Le prochain, c'est bientôt.
Sans faire d'autres, sans faire d'autres.
Je crois qu'on a trouvé le concept.
Oui.
Il y en aura d'autres, il faut quand même tenter ça, je pense, ce soir même.
Il y a toujours des
conseils.
C'est le conseil que je peux passer aux auditeurs. Tentez votre chance. Voilà, il peut y avoir des places qui se libèrent au dernier moment.
Enfin, quand même, moi, ça m'intrigue, parce que ce mélange entre accordéon, musique actuelle, sax, c'est écrit, c'est l'improvisation, c'est de la sauce qui prend comme ça sur scène, sur la première note, c'est écrit, c'est pensé, ça joue de ses va-et-vient.
Il y a des compos, il y a des compositions
surtout de Sylvain.
Malézieux, voilà. Il y a des arrangements de Mathieu, il y a les idées qu'on a amené Guillaume et moi, mais voilà, ça nous représente vraiment. C'est un petit.
Il y a de la musique amplifiée.
Oui, bien sûr.
On ne dit pas tout.
Non, je dis pas tout, mais oui. Enfin, voilà, c'est rigolo parce que ça a commencé où vraiment chacun a amené son univers et les trucs qu'il aime jouer. Donc du coup, c'est ça qui fait que aussi, je pense que ça a bien fonctionné, c'est que comme chacun avait un domaine d'expertise assez particulier, chacun avait vraiment voix au chapitre par rapport au travail qu'il amenait. Et puis, assez rapidement, à travers une ou deux compositions de Sylvain, on s'est rendu compte que Standouille, il avait réussi à faire une espèce de synthèse de tout ça. Mais un truc, moi, je suis vraiment très fan de ce qu'on joue des compos de Sylvain. Je trouve qu'elles sont vraiment... elles sont d'une efficacité incroyable. Et en même temps, elles représentent complètement nos quatre univers. Je ne sais pas comment il a fait.
Il vous connaît bien.
C'est sûrement ça. C'est le covoiturage. Ça, c'est très important. Mais du coup, voilà, ça fonctionnait comme ça. Moi, de mon côté, je fais des anti-compositions à base de collage et puis on réarrange beaucoup de choses. Et du coup, ce qui est bien, c'est que même si dans ce concert-là, il y a des morceaux qui sont vraiment teintés de l'univers de chacun, il y a aussi des choses qui commencent à être une espèce de synthèse un peu et d'un truc qui va plus loin. Et moi, j'avais un peu peur qu'on n'arrive pas à ce stade-là. Et en fait, je crois qu'on est en train de trouver quelque chose. Et c'est chouette, enfin, moi ça me fait plaisir.
On se donne rendez-vous le 21 pour ceux qui auront pu avoir des places, comme on dit. Justement, vous nous avez amené un morceau de votre choix. Vous n'étiez pas encore décidé quand vous êtes arrivé sur le titre. Et là, ça y est, le choix est fait.
Oui.
Ça va très vite.
Non, il n'y a pas de souci, nous c'est 3-4.
C'est ça.
Vous savez, là, vous êtes avec les mauvais garçons du groupe. Vous auriez eu Guillaume et Sylvain, ils jouent des instruments un peu plus nobles que nous, mais si c'est le saxophone, on peut pas. Enfin, c'est vrai que finalement, c'est quand même un ensemble avec des instruments qui sont pas très nobles, parce que le saxophone, c'est quand même pas le top, il paraît. Enfin, moi, on m'a dit ça, moi, je trouve que c'est très bien, mais. Et puis, l'accordéon, c'est quand même un peu. C'est un instrument qui se la ramène un peu dans les conservatoires, mais enfin, on sait d'où ça vient quand même, l'accordéon. Ouais.
Moi, je veux pas avoir de problème avec Guillaume.
Du coup, la contrebasse et la basse électrique et les percussions, alors là, nous, on est vraiment dans la cave, quoi.
C'est les mauvais garçons du CRD.
Ouais, mais on est Bad Boys.
Ok. Alors, et qu'est-ce que vous nous avez choisi, alors, les Bad Boys du CRD?
Après, on a choisi un truc pas Bad Boys du tout.
Voilà.
C'est ça le concept.
Mozart,
c'est le concept. Non, pas ce point.
C'était mon accroche, elle est bien, non?
On va la garder.
C'est sympa. C'est un morceau qu'on a écouté il n'y a pas si longtemps que ça et on s'est vraiment tous regardés en se disant, mais on devrait jouer ça. Ça ressemble déjà à certains trucs que Sylvain a écrit et en même temps, il y a plein de choses qui sont complètement. Assimilable à plein d'univers de chacun et du coup voilà alors on fait en blind test ou j'annonce j'annonce
au choix c'est vous qui décidez comment vous présentez les choses
comme diraient les inconnus on écoute et on en parle après alors.
D'accord.
Voilà, ça c'est un morceau qu'on a tous en tête. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Eh bien, c'est la musique du générique de début de Catch Me If You Can, qui est un générique assez incroyable de Kunzel and the Yagas, deux artistes français adeptes du collage et de cette espèce de manière de procéder avec des zooms et des dézooms sur des dessins avec simplement des silhouettes. Je pense que tous les gens qui ont vu le film ont gardé ce générique en tête qui est incroyable. La musique est de John Williams. C'est le premier mouvement d'un concerto pour saxophone qui est, enfin voilà, qu'on a tous trouvé d'une singularité incroyable et tellement déjà dans le son du quartet.
Très bien, ben merci à vous en tout cas d'avoir échangé avec nous sur La tête en l'air.
La tête ailleurs.
La tête ailleurs.
Ça marche aussi.
Ça marche aussi.
Ouais, mais c'est pareil. Oui.
C'est moi qui l'avais en l'air.
Je te dirais que moi, la première fois que j'ai écrit sur ma pochette La tête ailleurs, j'ai écrit La tête en l'air.
Ah. Eh ben voilà, comme quoi. Nous allons conclure notre émission parce que nous en arrivons à la fin, pour ainsi dire. Petit rappel des agendas que je n'ai pas, moi, Cécile.
Alors,
Nathalie.
Hein. Oui, quelques dates retenues. Donc, demain, Ciné-Scène, journée de con avec Will Ferrell. Puis, en début de journée, à 14h, les New Kids Turbo. 20 février, spectacle de théâtre Anna et Martha, texte de Dea Lauer, mis en scène par Robert Cantarella. 21 février, La tête ailleurs. La semaine prochaine, semaine danse avec Panorama de Couflé au Cadran, grand événement danse. Et puis Nuit de l'Alligator, le jeudi 13, avec à l'abordage Sarah McCoy, The Liminanas, Bor Gunnar Johnson.
Et puis ce soir aussi à l'abordage, tant qu'on y est, The Excitement. Je ne sais pas si c'est bien dit, de la soul.
Je n'aurais pas dit mieux.
Bon, ben voilà. Ce soir à l'abordage club.
Nos amis des faits divers qui remettent le couvert cette année pour la 7e édition.
Voilà, alors pour ceux qui n'auraient pas eu de place hein, pour La tête en l'air ailleurs, les 21 et 22 février au Moulin, à Louviers.
Festival gratuit.
Festival
toujours
gratuit,
bon,
exactement, j'y sais, ouais.
Voilà, c'est l'émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour le numéro du mois de mars de Scène de vie, vie de scène.
Le 7 mars, vendredi 7 mars.
Oui, je ne sais même plus si je l'avais dit ou pas.
Non, ouais, mais
en tout cas,
on se complète bien.
Le 7 mars, vous pouvez noter dans vos tablettes que de toute façon, c'est tous les premiers vendredis du mois. Nous allons nous quitter avec un extrait de film, comme nous avons l'habitude, un extrait sonore. Et puis, je vais te laisser conclure, Cécile, car c'est toi qui l'as choisi.
Alors, on l'a choisi avec Nat. Je crois qu'on a bien rigolé d'ailleurs en le choisissant.
Ouais.
C'est pour donner un petit avant-goût de cette journée la plus con de demain au cinéma. Donc, c'est Very Bad Cops avec Will Ferrell.
Bien le bonjour.
Bien le bonjour.
Eh bien, bien le bonjour. On vous souhaite un bon mois de sortie. On vous donne rendez-vous le mois prochain.
Il est 9h15, bonne journée tout le monde!
Ferme ta gueule!
Bien le bonjour.
Des coups ont été tirés. 509, 10e avenue Est. Il y a une importante quantité de cocaïne sur les lieux. Faites bien attention à vous, les gars.
Je sens que t'as pas trop le goût qu'on y aille, hein?
Pas trop. Débordé.
Ok, les fillettes, vous commencez à vous faire une idée. On s'occupe de boucler ce bordel.
Oh
les demoiselles peuvent rester ici et continuer à taper des lettres.
Allez-y, les gars, avec énergie et concentration.
Ta gueule!